When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dans quelques heures, rendez-vous peut-être encore une fois avec l'histoire. Allez les Bleus, nous parlerons bien évidemment des préparatifs et de la sécurité qui entourera l'événement. Ce sera juste après le point sur l'info avec Adrien Spiteri.
Nouvelle journée de consultation aujourd'hui pour Elisabeth Borne. Elle reçoit des groupes politiques pour évoquer la réforme des retraites. La première ministre s'est montrée intéressée par un mix entre l'âge de la retraite et la durée de cotisation, selon Hervé Marseille. Le sénateur s'est entretenu avec Elisabeth Borne ce matin. Le travail dissimulé a un coût. Il a fait perdre au moins 6 milliards d'euros à la sécurité sociale l'an dernier. Des chiffres publiés ce mercredi par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Les travailleurs des plateformes sont les mauvais élèves avec un taux de cotisation éludé de 43%. Et puis des perturbations sont-elles à prévoir dans le métro parisien en janvier? L'ensemble des syndicats de la RATP appellent à la grève. Ils affirment que leurs revendications n'ont pas été entendues par la direction. La grève pourrait intervenir autour du 10 janvier.
Des effectifs de police gonflés par rapport au dernier match, des stations de métro surveillées, des commerçants qui s'apprêtent aussi à des dégâts. Voilà l'ambiance d'avant-match, être prêt à toute éventualité.
Et on craint énormément, on va fermer plus tôt, on renvoie les équipes beaucoup plus tôt parce que il peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menaces physiques. Mais on ne sait jamais. Les dispositions qu'on va prendre, ça va être de barricader toutes les baies vitrées avec du bois, comme se sont fait généralement pour les manifs avec les gilets jaunes.
Plusieurs grandes villes ont d'ailleurs l'intention de faire de cette soirée une fête qui rassemble, à Dijon, à Saint-Nazaire aussi. Et le sport, estime les premiers élus, doit l'emporter sur une quelconque sanction, sur un quelconque boycott au Qatar.
Par le moment où nous avons décidé, le nous étant... mondial, de participer à cette Coupe du Monde. Moi, je préfère les moments qui rassemblent, qui fédèrent. Donc, ce n'est pas un soutien au Qatar.
Enfin, je ne crois pas qu'il soit fini. Ce sont les mots de Mathilde Panot à propos d'Adrien Quatennens, suspendu de son groupe le temps de sa sentence judiciaire. Quel avenir, au juste, pour lui? On se posera la question, écoutez.
Oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini.
Et pour cette émission, j'accueille sur ce plateau Judith Ventrop, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour, merci d'être avec nous, à vos côtés. Benjamin Cauchy, qui est chef d'entreprise, ravi de vous retrouver. Et Jonathan Sixou, journaliste pour Causeur. Alors ils seront 10 000 policiers et gendarmes chargés d'assurer la sécurité pendant, après la rencontre. Match crucial ce soir, vous le savez. Alors après les débordements passés, le ministère de l'Intérieur a-t-il su en tirer les leçons en matière d'anticipation? On va écouter Gérald Darmanin à ce propos.
C'est à peu près le double, en tout cas le double pour Paris et sa petite couronne, et sa banlieue, et puis le triple pour certaines villes de province. On sait que ce soit la France ou le Maroc, il y aura des manifestations de joie. Puis on sait aussi que ce week-end, il y aura une finale qui verra soit la France, soit le Maroc en finale, et puis une petite finale samedi. Donc nous avons pendant 4 jours des policiers, des gendarmes extrêmement
courageux. Donc
c'est
10 000 policiers et gendarmes, ils sont mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche.
Ils le sont à partir de cet après-midi, évidemment, samedi pour la petite finale et dimanche.
Jonathan Sixou, 5 000 rien qu'à Paris, en Ile-de-France. Est-ce que ça vous paraît à la mesure de l'enjeu ce soir?
Peut-être, je ne peux pas vous donner d'un avis précis sur une sorte d'expertise sécuritaire en la matière à titre personnel, Nelly. En revanche, ce que je peux noter, ce que je peux commenter, c'est cette ambiance qui, à mon sens, n'est absolument pas une ambiance de fête. On est devant une veille de match, avant-veille, ou quelques heures d'un coup d'envoi. Les magasins ferment, les restaurants ferment, les transports en commun s'arrêtent, notamment à Nantes. C'est ça une fête? Pour moi, ça n'en est pas une du tout. Oui. Un déploiement paramilitaire quasiment dans ces zones touristiques qui seront de fait fuis par les touristes, par les familles. Je vois pas où est la fête derrière tout cela. Les gens vont se claquemurer chez eux, vont regarder le match peut-être entre amis devant leur télé. Mais on s'attend, enfin depuis plusieurs jours maintenant, ne fait que commenter le chaos qu'on sait qui va se produire ce soir, comme il s'est produit déjà il y a quelque temps et comme il se reproduira malheureusement. On est, je trouve, totalement passif, même s'il y a ce déploiement de policiers et gendarmes, évident, qui est de l'ordre de la responsabilité, bien sûr, du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Mais il y a une sorte de laisser-aller en la matière, comme si finalement on se laissait un peu envahir par ce qui est devenu en quelques années une coutume. Désormais, qu'on gagne ou qu'on perde pour certaines équipes, c'est le prétexte, c'est l'étincelle qui est l'occasion d'aller tout brûler, de passer, de détrousser les passants, d'aller piller les magasins. Enfin, c'est totalement fou. Je pense que la France est le seul pays où systématiquement, parce que désormais c'est systématique, il se passe ce genre de choses. Et encore une fois, on parle là de sport.
Et on ira le vérifier d'ailleurs dans un instant, puisque une de nos équipes nous attend sur les Champs-Élysées. Judith Weintraub, juste avant de retourner sur le terrain, il y a, comme il le dit, une sorte de fatalisme insupportable autour dans la manière qu'on a d'anticiper cette soirée.
Oui, absolument. Et je pense que ce fatalisme est lié à une volonté de minimiser, voire d'occulter, une certaine dimension des troubles qui ont déjà eu lieu. Alors certes, il y a le saccage, les deux roues brûlées, mais il y a aussi un drapeau israélien qui a été brûlé sur les Champs-Élysées. Il y a aussi des discours qui sont tenus, y compris par le capitaine de l'équipe marocaine de foot, disant c'est la victoire du Maroc et la victoire de l'islam. Il y a des joueurs qui ont posté des vidéos, des joueurs de l'équipe du Maroc, rejoignez l'islam, rejoignez le bon côté. Il y a une dimension prosélyte que les autorités françaises et plus largement bon nombre de commentateurs français refusent de voir.
Mmh. Ouais, il y a une forme de circuler, il n'y a rien à voir autour de toutes ces revendications, ce côté revanchard, cette politisation à outrance du rapport qui ne devrait être qu'un rapport sportif au fond.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une part de... On va dire qu'il y a un discours de responsabilité que le gouvernement doit porter pour éviter d'attiser les tensions, éviter de faire en sorte que ce match soit une guerre de civilisation, parce que avant tout, je pense qu'on peut tous se l'accorder, ça ne reste que du foot. Ce sont 11 personnes de chaque côté qui vont se battre avec un ballon au pied. Donc je tiens quand même à rappeler ce qu'est le foot. Pour autant, c'est un match symbolique. Donc il y a à la fois ce devoir de responsabilité du gouvernement à ne pas aller trop loin pour éviter de rentrer dans cette guerre de civilisation. Et puis je crois aussi qu'il y a une part de déni. Une part de déni, puisqu'effectivement, ces sujets-là sont aujourd'hui récurrents. Vous avez omis et à décharge hein, le drapeau marocain qui est également planté sur une mairie annexe à Amiens, en Picardie. Donc effectivement, il y a un enjeu civilisationnel et l'attitude de certains joueurs, notamment de l'équipe de Maroc, ne tire pas vers le haut cet enjeu de ce soir.
Allons sur les Champs-Élysées avec notre reporter Yael Benamou. Bonjour Yael. Vous êtes justement au contact de ces commerçants, de ces nombreuses boutiques, de luxe parfois, de plus petites boutiques aussi, qui ont décidé tout simplement de baisser le rideau de manière à parer à toute éventualité.
Oui, alors déjà, un point sur les dispositifs policiers. On a aperçu quelques forces de l'ordre qui patrouillent, mais il est encore un peu tôt pour voir le déploiement du dispositif qui sera mis en place pour cette demi-finale France-Maroc. 2200 policiers et gendarmes vont être mobilisés et une bonne partie d'entre eux seront ici, aux alentours des Champs-Élysées. Alors un dispositif très important qui rassure tout de même les commerçants, même si certains ont pris leur disposition. Je vous propose de les écouter.
On a décidé de fermer ce soir et dimanche soir aussi. Voilà, on est juste à côté des Champs-Élysées. Difficulté pour nos clients de venir jusqu'ici. On est obligé de faire intervenir quand même notre société de sécurité qui va être là devant le restaurant Yakatan toute la soirée, mercredi et dimanche.
Moi j'ai vu déjà la semaine dernière, il y a des supporters, non c'était festif, hein. Que ce soit marocain ou français. J'ai pas vu beaucoup de français, mais quand il y a eu les victoires du Maroc, c'était sympa. Après il y a des excités du bocal et ça, qu'est-ce que vous voulez y faire?
Alors par précaution, certains commerçants ont aussi rentré leurs terrasses. Alors pour éviter les débordements, les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde, comme les Champs-Élysées, devraient être vidés de leurs poubelles par exemple, ou bien des barrières de chantier, ou bien de tout autre matériau pouvant être utilisé comme une arme.
Merci beaucoup Yael Benamou sur le terrain aujourd'hui. C'est la vérification de ce que vous craignez, que vous disiez, vous annonciez. Finalement, les gens vont rester chez eux. Il va y avoir ce côté un peu terne de l'événement, par peur d'emmener ses, je sais pas, ses enfants. Et ça risque d'être le cas si jamais la France parvenait en finale également. Hein.
Mais oui, vous avez raison. Et tout ça, je trouve, ça se drape dans une certaine... certaines tristesses, finalement, voyez-vous, indépendamment de la liesse, de la joie des supporters qui est réelle, je n'en doute pas, mais de voir que c'est encore une fois quelques centaines, une poignée de milliers d'individus qui sèment le chaos, alors que je suis convaincu qu'ils peuvent être canalisés d'une façon ou d'une autre. Parce que, encore une fois, c'est pas nouveau, ça ne date pas de ce mois-ci, ça ne date pas de l'année dernière, c'est devenu désormais une antienne que l'on connaît. Et il y a comme ici les autorités étaient tétanisées, paralysées par la crainte. Vous savez, les policiers ont, et les gendarmes ont ordre de ne pas aller au contact, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas frapper, de ne pas contraindre physiquement les manifestants. Ce soir-là, ils sont hantés par l'écho, les échos qui ont été donnés notamment aux blessés des manifs des Gilets jaunes. Il y en a eu des graves, ça c'est vrai, mais on a eu tendance aussi, rappelons-le, à inverser la situation dans bien des cas. Et on dirait qu'ils sont un peu tétanisés par ça et qu'en en fait, ils sont là pour montrer, oui, que la police existe, mais la rue, de fait, est laissée aux casseurs. C'est un peu de open bar et puis on passera après pour passer la balayette.
Et puis j'aimerais qu'on écoute Alain Bauer, vous connaissez tous, spécialiste, criminologue. Lui, il nous parle de la physionomie des supporters et des autres. Écoutez.
Oui, en fait, il se produit un événement, particulièrement dans le monde du football, mais pas seulement, qui est que désormais, on a des supporters du football, qui sont des gens plutôt heureux et qui aiment le foot, des ultras qui aiment beaucoup le foot, des hooligans qui aiment trop le foot et des purs voyous qui n'ont rien à faire du foot. Donc il y a des trop enthousiastes et des qui n'ont rien à faire du football, qui surfent sur l'événement pour, comme il y a des surfeurs de la manifestation qui s'invitent entre guillemets dans les manifestations sociales et syndicales juste pour casser du flic ou pour casser des vitrines.
Voilà, toute occasion est bonne à prendre pour exprimer sa haine de Dieu sait quoi d'ailleurs, parce que voilà... Normalement, un être humain normalement constitué
de la France,
doit général. Pouvoir canaliser. Non, mais on peut canaliser aussi ses pulsions. Là, c'est la porte ouverte à tout exprimer.
Oui, on a vraiment l'impression qu'on installe par fatalisme un no man's land, une sorte de lieu d'exutoire au milieu de Paris, sur la plus belle avenue de notre pays, la plus belle avenue du monde. Voilà, donc on ferme tout, les transports, les commerces, on barricade de policiers et de gendarmes, et on s'attend à ce qu'il y ait un pugilat au milieu, au grand drame des riverains et des commerçants. On se focalise sur Paris. Je voudrais juste avoir un petit mot pour moi qui suis d'Occitanie, des grandes inquiétudes de la police municipale de Toulouse par rapport à la fin de ce match. J'ai pu avoir des échanges ce matin à ce sujet-là. Il y a énormément d'inquiétudes également dans de nombreuses villes de métropole et puis aussi dans ces villes moyennes. Je pense à Soissons, je pense à Laon, je pense à Reims, des villes qui sont à 100-120 km de Paris et qui génèrent également de grandes tensions au quotidien et qui pourraient aujourd'hui voir ressurgir justement un conflit beaucoup plus fort que celui du foot.
Alors vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on vient de recevoir la réaction de la préfète des Bouches-du-Rhône. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a à dire sur le dispositif.
Le dispositif va reposer sur une présence renforcée, évidemment, de la police et de la gendarmerie dans l'ensemble des grandes villes du département et particulièrement à Marseille. Une présence qui doit être visible, qui doit être dissuasive et qui doit être aussi bienveillante. Avec d'abord la protection de l'ensemble des participants à ces festivités contre la menace terroriste qui reste prégnante dans le département comme ailleurs en France.
Judith Weintraub, vous disiez, j'ai noté en réaction à votre voisin tout à l'heure, vous disiez tout est bon pour exprimer sa haine de la France. Est-ce qu'on peut aller, selon vous, jusqu'à parler de francophobie en l'espèce ? Chez certains,
oui, mais vraiment chez certains. Je tiens, moi, je comprends très bien, même quand on est de double nationalité franco-marocaine ou même français mais né d'ascendant marocain, qu'on souhaite la victoire du Maroc. Pourquoi pas ? Et même qu'on agite des drapeaux marocains en signe de joie si le Maroc l'emporte, ça me dérange pas du tout. Ce qui me dérange beaucoup, c'est la thématique de la revanche, qui s'appuie sur ce thème éternel de l'humiliation arabe, dans les discours que je vous ai cités tout à l'heure, y compris émanant de membres de l'équipe du Maroc. Il y a cette idée sous-jacente que le monde musulman a une revanche à prendre sur le monde blanc occidental et chrétien. D'ailleurs, l'expression même de victoire musulmane, victoire du monde musulman dans la bouche du capitaine de l'équipe du Maroc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la France gagnait, ce serait la victoire du monde chrétien. Évidemment, ça n'a aucun sens.
Je ne sais pas si vous avez consulté Twitter ces derniers jours, mais je trouve quand même que ce que vous décrivez à l'instant est assez apparent sur ce réseau social. Il y a des tunnels de réponses, de commentaires à ce que mettent les uns ou les autres, parce qu'en plus, les binationaux qui sont en vue, les personnalités connues, on leur demande de choisir leur camp au préalable, comme si ça ne pouvait pas rester de l'ordre du privé d'ailleurs. Mais sur Twitter, il y a un déferlement de haine dans certains messages qui sont publiés.
C'est la bonne excuse pour permettre à ces mouvements, à ces courants de pensée, entre guillemets, de s'exprimer, je pense. Effectivement, il y a cela sur Twitter, sur différents réseaux sociaux. Mais sur ce point, comme sur d'autres d'ailleurs, il suffit d'une excuse pour d'un petit déclencheur. Je reviens sur ce terme. Là, c'est pas petit puisque ça draine évidemment des millions de passionnés. Mais c'est l'excuse d'aujourd'hui. C'est un match de foot et on voit tout. Et Judith a entièrement raison. On voit l'ampleur des thèmes et qui ne sont pas minces pour le coup que représente, on parle de thèmes civilisationnels, de thèmes idéologiques et autres. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a deux équipes de footballeurs qui vont s'opposer. C'est énorme.
Alors, concentrons-nous un petit peu sur le match, quand même, parce que c'est ça qui va nous animer à partir de 20h. On aura oublié momentanément tous ces problèmes. Nous sommes avec Louis Vix. Bonjour, Louis. Vous êtes à Doha avec l'ambiance d'avant-match qu'on imagine soit la liesse, soit le recueillement, parce qu'il y a un côté un peu sacré autour d'un événement pareil. Mais on va aussi parler de l'enjeu et de l'opposition féroce qui va se jouer sur le terrain aussi ce soir.
Oui, c'est vrai que c'est une affiche complètement inédite et improbable. Personne n'y aurait cru il y a quelques semaines de voir la France et le Maroc se rencontrer en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est vrai que le Maroc, c'est la surprise de cette compétition. C'est la meilleure défense. Les Marocains n'ont encaissé qu'un seul but. Et encore, c'était un but contre son camp. C'est dire les difficultés posées par cette sélection marocaine aux plus grandes nations du jeu. La Belgique d'abord en phase de groupe. La Croatie également. Ensuite, l'Espagne en huitième de finale. Le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale. Donc, les Marocains ne rêvent absolument pas de s'arrêter là ce soir. Ils ont l'ambition de faire tomber les champions du monde en titre. Ça va être une défense extrêmement regroupée, un bloc très bas. Les Bleus vont avoir le ballon. C'est pas forcément dans cette condition-là qu'ils sont les plus à l'aise ces dernières années, mais c'est vrai que la France, bien sûr, est favorite. Vous parliez de l'ambiance. On est devant l'hôtel des Bleus, là. On est allé à moins de 4 heures du coup d'envoi de cette rencontre. Il y a quelques supporters français, mais très honnêtement, c'est calme. En revanche, en ville, et lorsqu'on va se rapprocher tranquillement du coup d'envoi, on va être embaumé, envoûté même par la ferveur marocaine. On en annonce entre 40 et 50 000 dans le magnifique stade Al Bayt qui a une capacité de 70 000. Autant vous dire que les Bleus vont jouer à l'extérieur ce soir, une ambiance qu'il va falloir appréhender au mieux parce que forcément ça va compter au moment d'entamer cette rencontre.
Louis, petite question subsidiaire et après on vous laisse, promis, avec Canal. Est-ce qu'on a une idée déjà de la compo ou elle n'est pas encore tombée ?
Oui, on a une idée de la composition d'équipe. Il y a juste deux incertitudes autour, vous le savez, de Dayot Upamecano, le défenseur central du Bayern Munich, et d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain. Ils étaient malades hier, absents de la séance. Ils vont beaucoup mieux. Ils ont bien dormi cette nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, la décision de Didier Deschamps, là, va être imminente. A priori, on se dirige vers une titularisation de ces deux hommes, ce qui serait forcément une bonne nouvelle, notamment pour Adrien Rabiot au vu de sa Coupe du Monde. Pour le reste, ce sera l'équipe que vous avez vu évoluer depuis le début de cette Coupe du Monde, avec notamment Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud pour mener l'attaque des Bleus.
Merci Louis et merci à Mathilde Espinasse qui vous accompagne. Bonne chance ce soir pour couvrir l'événement, mais quel vénard quand même, si je peux me permettre ce petit commentaire. Merci en tout cas et bon match à vous. Jonathan Sixou, ça vous intéresse le rapport de force sur le terrain ? Vous intéressez au foot tout court ou
Absolument pas.
Pas du tout ?
Pas du tout.
Rassurez-moi, vous avez regardé ce soir quand même.
Non plus.
Non, je ne peux pas le croire.
Je vous assure, mais les enjeux sportifs, qu'ils soient footballistiques ou autres...
C'est vrai ?
Ça me passe très loin.
Religieusement.
Mais tant mieux pour vous, je ne veux absolument pas casser l'ambiance pour quiconque.
Moi, je suis à fond, mais mes deux garçons ont transformé la maison en téléfoot depuis à peu près 15 jours. Donc,
on vit, les deux garçons, c'est pas vous. Vous aimez ça
mais je suis un papa qui suit le mouvement. Et donc là, pour le coup, on s'est piqué au vif. Et là, l'équipe de France, elle est belle. Mbappé a une vitesse incroyable. Griezmann, il a des pieds en or. Dembélé nous fait des trucs de fou sur la droite. Rabiot distribue. Non, franchement, j'ai toujours eu un peu d'inquiétude sur notre défense. Voilà, si vous voulez tout. Et puis, on a un capitaine. On a un gardien de but qui est extraordinaire. Ouais. Et si on est en demi-finale, c'est notamment grâce à Hugo Lloris. Donc je pense qu'on peut gagner ce soir.
Ouais, et vous, voilà. Judith ?
Je suis comme Jonathan. Je suis très contente pour les gens auxquels le foot fait plaisir.
Mais enfin, un plateau où je complètement ne suis pas en minorité absolue.
Non, mais ne serait-ce que pour l'enjeu, à défaut de regarder, ne serait-ce que pour l'enjeu, vous allez aller sur Twitter, vous allez suivre quand même. Vous allez suivre le déroulé, non ? Même pas
Non,
ça ne vous intéresse pas de savoir à la mi-temps combien il y a de buts, etc.
Absolument pas. Non, mais vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vous désintéresser totalement. C'est le cas pour moi. En matière sportive, j'aurais.
Je vais pas venir sur les champs avec
Ah, ça peut-être, mais ça prend une autre dimension.
Alors... Donc ce soir, ce sera pas pizza et bière, quoi.
Non, pas du tout. Mais évidemment, je pense que quelqu'un me soufflera à l'heure dite le résultat. Bah, ma foi, on verra ce que ça donne. Et puis, ça, de toute façon, on aura des choses à dire, vous savez, même si on n'a pas regardé le foot.
Juste un mot sur le rapport de force. Quoi qu'on dise, même si la France est a priori favorite de par aussi le titre, etc. Ce genre de match transcende tout, c'est-à-dire que un jour un match, on peut pas dire à l'avance, elle aura une puissance écrasante, ou alors c'est parce que aussi on est un petit peu superstitieux, donc on a du mal à le dire, à le lâcher.
Ouais, et puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les Marocains sont pour la première fois sur une phase de demi-finale,
galvanisés.
Votre collègue à Doha a expliqué qu'il y avait une ferveur, qu'il y aurait un soutien aussi de la part des supporters dans le stade. Donc il y a effectivement cet enjeu-là, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Donc est-ce qu'ils sont bien préparés ? On a quand même l'avantage avec cette équipe de France, c'est qu'ils ont une expérience à l'international. On espérera que ça compte.
Allez, encore un mot.
Juste un mot, sans donner un avis strictement sportif. C'est très important ce type d'événement, justement, parce que ça fédère les peuples. Ce qui se passe ici, c'est un contre-exemple absolu, mais à l'échelle de la planète, ce sont des événements hyper positifs. Il fut un temps, les expositions universelles tenaient aussi ce type de rôle. Les expositions universelles continuent, mais on n'en parle plus, ça n'intéresse plus les masses. Et ce type d'événements sportifs et populaires sont aussi positifs.
Et puis, il ne faut pas oublier que même quand son équipe perd, généralement, on prend après, fait des causes pour une autre. Donc, c'est ce que vous dites aussi. On est toujours un peu en soutien à une équipe, même si ce n'est pas la nôtre. Merci. On s'interrompt quelques minutes. On va retrouver Éric Dorilmatten pour la chronique écho en attendant.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Cette taxe carbone, même si elle est utile pour l'environnement, elle inquiète grandement les dirigeants européens. Parce que les importations de ciment, acier, aluminium, fer et engrais seront taxées aux frontières. C'est-à-dire que la matière brute importée sera soumise à une taxe supplémentaire. Prenons l'exemple d'un industriel qui achète de l'acier pour produire des voitures ou même des articles de cuisine. Eh bien, il devra payer cette taxe, ce qui va renchérir ses coûts de production. Alors que le produit fini, c'est-à-dire les mêmes articles de cuisine importés de Chine ou de Turquie, eh bien, eux ne seront pas taxés. Il faut voir que ça pose un gros problème aux industriels parce que France Industrie, que nous avons contacté, dit tout simplement que l'Europe a fait le choix de taxer le carbone avec le risque de favoriser la désindustrialisation. Et ça tombe à un moment où les coûts de l'énergie menacent les marges des entreprises et surtout au moment où les États-Unis, eux, font l'inverse. Ils proposent au contraire des avantages fiscaux aux entreprises pour les attirer et les installer sur leur territoire. En attendant, cette taxe sera testée en octobre 2023. Elle sera mise en place en 2026 et 2027, mais il y aura entre-temps d'intenses négociations pour obtenir des exemptions ou des compensations financières. Alors, bien entendu, cela ressemble à une usine à gaz. Et si l'Europe ne parvient pas à trouver un accord intelligent, j'allais dire, eh bien, si les choses tournent mal, cette écologie non raisonnable risque bien de tuer une partie de l'économie et d'encourager les délocalisations.
C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Allez, petit quiz en guise de hors-d'œuvre pour la suite. Est-ce que vous connaissez l'expression « wag the dog » ? Il y a un film qui avait été fait, alors, avec Dustin Hoffman. Ça veut dire détourner l'attention quand il y a un problème, détourner l'attention sur un autre problème. Certains, les spin doctors de la politique, sont passés maîtres dans cet art-là. On verra si ça s'applique à l'affaire Adrien Quatennens. À tout de suite. De retour dans un instant pour le débat de 90 minutes info, juste après le JT de Mickaël Dorian, bien sûr. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. La tension monte pour les Bleus à Doha. France-Maroc, c'est ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Coup d'envoi à 20h. Et ce soir, l'atmosphère au stade Al-Bayt sera largement en faveur des Marocains, Louis Vix.
Ça y est, la nuit est tombée ici à Doha, au Qatar. La pression monte à quelques heures désormais du coup d'envoi de cette demi-finale entre la France et le Maroc. Énormément de supporters marocains ce soir dans le stade Al-Bayt. On en annonce entre 40 et 50 000 pour une capacité totale de 70 000. Les Bleus vont évoluer à l'extérieur. Ça avait déjà été un petit peu le cas, mais dans des proportions un petit peu moins importantes face à la Tunisie lors du troisième match de la phase de groupe. C'est vrai que Didier Deschamps a eu des retours assez incroyables sur la ferveur marocaine depuis le début de la compétition, que ce soit lors de la phase de groupe face à la Belgique, ensuite face à l'Espagne en huitième ou encore face au Portugal en quart de finale. Les Marocains portés par leurs supporters pour pourquoi pas réaliser un nouvel exploit. Les Bleus sont prévenus, il va falloir appréhender cet environnement. On peut parler d'hostilité, on peut surtout parler d'une magnifique ferveur et d'une ambiance certainement unique à ce stade et dans l'histoire d'une demi-finale de Coupe du Monde.
Merci Louis Vix, envoyé spécial Canal Plus à Doha. Alors il faut dire que l'enjeu de ce match est capital. L'équipe gagnante affrontera l'Argentine en finale dimanche. Alors quel est votre pronostic pour le match de ce soir? On vous a posé la question.
Écoutez, je vois une victoire de la France, de l'équipe de France. Allez, 2-1, difficilement, parce qu'en face le Maroc est excellent. Donc mais c'est un espoir quelque part. Voilà.
Tire au but et Loris, il est bien et... Je pense qu'il te rebute ce soir. Je pense.
2-1. 2-1 pour la France. Pour la France ? Vous êtes sûr que la France... Certains.
2-1. Allez, 2-1. Ah, tu vois ? 2-1, ouais.
Gagné, c'est sûr.
Match à suivre ce soir à 20h via MyCanal sur les chaînes TF1 et Bein. La neige et le verglas perturbent les transports dans la moitié nord du pays, de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. 25 départements sont toujours en vigilance orange. De très nombreux transports scolaires sont suspendus aujourd'hui et des perturbations sont également attendues dans les transports aériens. La consommation d'électricité continue de baisser en France. Le gestionnaire du réseau RTE enregistre un recul de 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce matin sur CNews, Bruno Le Maire a salué les efforts des Français grâce auxquels on évitera certainement, selon lui, des coupures. Écoutez.
Je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandés. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état des réacteurs nucléaires. À l'heure où je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif, c'est d'en avoir 45 au mois de janvier.
Dans le reste de l'actualité, des perquisitions ont été menées hier au siège parisien de McKinsey du parti Renaissance. Elles ont été conduites par les juges d'instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une pour tenue non conforme de compte de campagne et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme. Des élevages sans canards ou volailles à compter de demain dans 3 départements du Sud-Ouest. Une façon de se protéger de la grippe aviaire et d'éviter les abattages. 68 communes sont concernées. Un vide sanitaire inédit grâce auquel les professionnels espèrent éviter la propagation du virus H5N1. Et puis en Chine, nouvelle flambée de cas de Covid-19. Selon la vice-première ministre, les contaminations augmentent rapidement à Pékin. Vous voyez sur ces images ces files d'attente de plus en plus importantes devant un hôpital de la ville. L'ampleur de l'épidémie est désormais impossible à déterminer dans le pays car les tests ne sont plus obligatoires depuis l'assouplissement des mesures la semaine dernière. Voilà pour l'actualité. La suite de 90 minutes info à présent avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup Mickaël et à plus tard sur notre antenne, toujours avec Jonathan Sixou, Judith Vintraube et Benjamin Cauchy. On va parler de politique. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte en diffamation après les propos du député LFI suspendu, Adrien Quatennens, suspendu par son groupe, mettant en cause le ministère de l'Intérieur dans sa chute. Dans une interview à La Voix du Nord, Adrien Quatennens, qui a été, je vous le rappelle, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme, eh bien, il estime être victime de ce qu'il appelle un coup politique destiné à l'abattre, ce sont ses mots. Plusieurs sources, selon lui, disent que ça a été directement orchestré par le ministère de l'Intérieur, même s'il dit en creux, je ne suis pas moi-même en mesure de l'affirmer personnellement. Écoutez la réaction de Gérald Darmanin, précisément.
Oui, ses propos sont calomnieux. Il diffame gravement
les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'ils pensent à eux.
Et donc, ils vont viser
vous aussi. J'imagine pas. Le ministre de l'Intérieur ne distribue pas comme ça les fiches de justice qu'il n'a d'ailleurs pas à l'ensemble des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France insoumise, hein, je le constate, ils ont un problème manifestement avec la police, mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation.
Bonjour Élodie Huchard. Alors après la décision de justice, la décision politique, il est mis à l'écart de son groupe désormais, mais il y a cette question, un retour est-il possible ?
Oui, et c'est toute la question. Et forcément, si on voit une différence entre, d'un côté, la France insoumise et le reste de ses alliés. Parce que du côté de la France insoumise, Mathilde Panot nous le rappelait encore ce matin, cette décision politique, elle est justifiée, radiée pendant 4 mois de son groupe. Il pourra y revenir s'il se soumet aussi à un stage auprès d'une association. Et puis, ce qu'explique aussi la présidente du groupe, c'est que Adrien Quatennens a le droit de se défendre et de maintenir son activité de parlementaire. Il est pour l'instant non inscrit. Ça, c'est du côté de la France insoumise. En revanche, parmi les alliés de la NUPES, le ton n'est pas forcément le même. D'un côté, Sandrine Rousseau ne cesse de l'appeler à démissionner. Dans les rangs de la gauche, on explique qu'un retour peut être très compliqué. Alors Mathilde Panot elle-même disait qu'elle ne pense pas qu'il soit fini, qu'il pourra revenir dans 4 mois. Oui, mais quel accueil est-ce que Sandrine Rousseau, par exemple, et le groupe écologiste vont lui réserver un accueil particulier? Adrien Quatennens, qui se plaignait notamment d'avoir été victime d'un lynchage. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les rangs de l'Assemblée, c'est que c'est presque ironique comme terme, puisque certains, notamment à droite, nous disaient la France insoumise est souvent la première à se prêter à ce genre de pratique. Et puis, du côté du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy nous disait tout à l'heure, cette décision est misérable, il ne s'applique même pas à eux-mêmes, leurs propres valeurs.
Merci beaucoup et merci à Laurent Sélarier qui vous accompagne aujourd'hui. Bien, on va l'écouter, Mathilde Panot.
Oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini. Je pense qu'à un moment, il aura en quelque sorte payé la dette qu'il a. Il a pris une condamnation judiciaire, il a accepté des conséquences politiques et que maintenant il peut faire son travail de parlementaire.
Alors c'est intéressant. Judith Ventrop, je commence avec vous cette fois. Lorsqu'on a été condamné dans la vie civile, on purge sa peine, on reprend son travail, on se réinsère, c'est acceptable. Est-ce que cela vaut pour un représentant de la République ou doit-il remettre son siège en jeu ?
Alors, à mon avis, ça vaut pour un représentant de la République, mais à l'avis de Jean-Luc Mélenchon, non, puisque je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon souhaitait que tout élu condamné pour quelque cause que ce fût démissionnât et abandonnât ses fonctions.
Sauf chez lui.
Sauf chez lui. Alors ça, c'est un peu ennuyeux parce que la France insoumise, effectivement, ne s'applique pas à elle-même les règles dont elle exige à corps et à cri qu'elles soient appliquées aux autres. Raison pour laquelle, peut-être, il y a cette mousse, ce bruit autour des accusations proférées par Adrien Quatennens contre Gérald Darmanin. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'apparemment, il les a proférés, puisque c'est dans la version web, la version électronique de son interview oui. À la Voix du Nord, mais ce n'est plus dans la version papier. Alors, pour travailler dans le secteur, quand vous avez une version qui est sur le web et une autre, une version différente sur le papier, c'est qu'entre les deux, il y a eu un coup de fil. Un coup de fil de l'interview qui vous dit, s'il vous plaît, enlevez au moins de la version papier ce que j'ai dit.
Après, il y a des journalistes qui s'exécutent. Oui, je vais pas y arriver. Merci beaucoup. Non plus.
Le risque quoi, du coup,
des journaux qui ne cèdent pas.
Oui, nous on cède pas parce qu'on explique que de toute façon, quand bien même on supprimerait ça du papier, la différence serait tellement flagrante que ça aggraverait plutôt les choses et ça attirerait l'attention sur ce qui manque dans la version papier.
S'exécuter. Je vais m'entraîner un petit peu. Non, mais Jonathan Sixou, est-ce que quand même ça peut être préjudiciable pour ce groupe? Pour LFI, auprès des électeurs, ce genre d'attitude.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce groupe est préjudiciable pour la démocratie en général et ne cesse de le prouver depuis les dernières élections législatives. Regardez comment Mathilde Panot n'arrive même pas à finir une phrase tellement, justement, ils sont encombrés par leurs contradictions idéologiques, juridiques,
régaliennes,
juridiques internes, morales, etc. Ils ne peuvent pas. C'est l'équation LFI est intenable. Cette tournée autour de Jean-Luc Mélenchon, le grand chef est parti. Il mène tout de son bureau à passer des coups de fil et à tirer des...
Sans compter qu'il y a eu la purge hein, ces derniers jours aussi.
Il y a la purge, mais vous vous rendez compte les termes qu'on emploie quand on parle on parle du fonctionnement de ce parti. Et la façon aussi de demander l'application de règles folles alors que même ne se l'appliquent pas, c'est exactement le propre de beaucoup de systèmes qui, en leur sein, sont totalitaires. LFI, c'est tout ça à la fois. Et on voit bien comment ils désinguent et ils font dérailler depuis le début de la mandature les débats parlementaires. C'est insupportable. Qu'il y ait des purges, qu'ils s'entretuent, etc. Je parle là au sens politique du terme, évidemment. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je ne peux pas avoir de peine pour eux parce que je vois à quel point ils font de la peine à notre système qui lui-même se porte très mal.
Benjamin Cauchy, c'est vrai qu'on a vu quand même plusieurs conférences de presse depuis toutes les affaires, y compris Julien Bayou, etc. Pour l'Alliance NUPES. Toutes les affaires qui touchent cette formation, ces trois groupes politiques qui ont fait cette alliance de fortune, quatre même, on a vu qu'ils étaient souvent gênés aux entournures, même dans les prises de parole, on se refile le micro, on se met au deuxième plan, ils ont du mal à formuler les choses.
Oui, ils deviennent des champions de la circonvolution. Moi, je me souviens d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, ils étaient une douzaine sur scène, il n'y en a aucun qui voulait parler, il y avait Obono qui redonnait le micro à Mme Panot.
C'est celui qui sera le plus courageux et le plus vaillant. Voilà,
c'était un grand moment de solitude collectif, comme l'aime la gauche. Plus sérieusement, on vient de parler effectivement des conséquences politiques à l'extérieur de LFI et de la NUPES. Parce que ce double discours et le fait de ne pas faire ce que l'on impose à l'autre devient complètement débile et fait une perte de crédibilité extrêmement forte. Mais il y a aussi un enjeu interne à NUPES. Et on voit bien que c'est un peu le girl power depuis plusieurs mois. Et
Sandrine... Mais de ce point de vue-là, Sandrine Rousseau est cohérente avec elle-même.
Mais
on ne peut pas lui reprocher de changer d'avis au gré des opportunités politiques.
J'allais jusqu'au bout, Judith, effectivement, et on voit bien sur l'affaire Bayou comme sur l'affaire Quatennens qu'il y a quand même une volonté qui est idéologique et politique, et qu'incarne Autain, qu'incarne Rousseau, de vouloir rééquilibrer le rapport entre les hommes et les femmes au sein de la vie politique, y compris au risque de faire du grabuge au sein de leurs propres troupes. Donc je crois qu'il y a cet enjeu-là qui est derrière, après, le leadership de la gauche. Si on peut fragiliser Mélenchon en fragilisant ses dauphins, un par un, ça sera bon pour la gauche.
Il nous reste une dizaine de minutes dans cette partie d'émission. On va revenir à l'enjeu de ce soir, c'est-à-dire, la demi-finale France-Maroc au Qatar. Et on a en ligne avec nous le maire de Carhaix, dans cette belle région de Bretagne, Christian Troadec. Vous, bonjour, vous avez décidé d'afficher la couleur, c'est-à-dire sur la façade de la mairie, les trois drapeaux, français, marocain, breton. Ça a beaucoup été commenté, parce que c'est paru dans la presse régionale. Alors dites-nous un peu ce qui vous animait, j'imagine, un côté fédérer les cœurs, fédérer les esprits, c'est ça?
Oui, bonjour. On a aussi, bien sûr, sur le parvis de la mairie et à son balcon, le drapeau ukrainien, en solidarité avec le malheur du peuple d'Ukraine actuellement, hein, qui subit les bombes de la Russie, et puis évidemment aussi le drapeau européen, pourtant d'abord aussi à l'entendre entre toutes les nations d'Europe, et que ce soit pour le peuple breton, que ce soit pour les autres peuples qui sont aujourd'hui dans une confrontation qui va arriver dans quelques heures maintenant pour le Maroc avec la France. Donc nous, c'est une façon de mettre à l'honneur le Maroc, parce qu'on a ici aussi des ressortissants marocains ou d'origine marocaine, et puis que ce soit pour les Marocains de Carhaix ou de Bretagne. Voilà, c'est une façon de montrer tout simplement la solidarité, la fraternité qui existe entre les peuples. C'est d'abord un match de football, donc c'est aussi d'abord un moment joyeux, un moment sportif, un moment de convivialité, et c'est pour ça que je suis retrouvé aujourd'hui avec aussi le patron du bar La Brasserie Marocaine.
Alors justement, oui, vous avez un invité, lui aussi, j'imagine qu'il est très content de cet événement. On va peut-être, je ne sais pas si on peut lui passer la parole, ou si vous nous entendez, monsieur, ou si vous pouvez vous exprimer aussi.
Oui.
Dans quel état d'esprit vous abordez la rencontre? Évidemment, vous devez avoir un favori, on ne va pas forcément vous demander lequel d'ailleurs, mais
Quel est ce qui préside à votre état d'esprit là, en ce moment, à quelques heures du match?
Voilà, c'est la fierté que Christian a mis le drapeau à la mairie de Carhaix. C'est la fraternité, la convivialité, et c'est vraiment la joie et les valeurs que font véhiculer depuis le début l'équipe marocaine. Je crois que c'est ça, et l'émotion que ça procure. Que du bonheur à partager pour ce soir.
Est-ce que vous avez organisé un petit événement particulier? On a beaucoup parlé, vous savez, de ces commerçants dans les villes où ça risque de dégénérer, qui fermaient le rideau, des restaurants aussi qui ont décidé de fermer leurs portes. On le verra peut-être un petit peu plus tard d'ailleurs, à Dijon par exemple.
Sincèrement, nous.
Pas vous?
Oui, sincèrement, nous on est ouvert, pas à Carhaix, pas en Bretagne. Là, c'est vraiment mettre la loupe sur quelques petits événements. On voit bien que dans les médias, c'est un peu cultivé. Maintenant, sincèrement, c'est vraiment très, très chaleureux, très convivial. Dans tous les cas de figure, on est gagnant, que ce soit l'une ou l'autre. Aujourd'hui, on soutient le Maroc. Enfin, moi, personnellement, demain, je vais soutenir la France. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre.
D'accord. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. C'était sympa de faire l'effort de vous mettre en direct. Et d'ailleurs, on va regarder avant de rejoindre un autre de nos correspondants. Oui, vous pourrez bien sûr regarder ce sondage justement sur cette idée qu'on puisse arborer des drapeaux autres que le français. On a sondé les Français à ce sujet. Peut-être que le résultat va vous surprendre. Si on peut avoir le carton. Faut-il interdire, ça c'est la question qui était posée, les drapeaux étrangers en France lors des matchs de football? Eh bien 81% disent non. Mais si on regarde in fine dans le détail après, en fonction évidemment des sympathies ou des orientations politiques, ça reste quand même une écrasante majorité. Hein. L'ensemble c'est 81, total gauche 85, au centre encore plus d'ailleurs, et puis à droite évidemment une petite déperdition. Même si on regarde encore plus au microscope la droite et ses différentes sensibilités, chez les Républicains à 69% on dit non. À 60% au Rassemblement national et à Reconquête. Alors là, vous voyez, le rapport s'inverse. 56% des sympathisants de Reconquête estiment que oui, il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. C'est pas seulement est-il souhaitable d'arborer ou pas. C'est faut-il interdire? Est-ce qu'il est interdit d'interdire, Jonathan Sixou?
Moi, je pense qu'il faut se calmer un peu. parce que. C'est très beau quand vous avez une visite d'État en France de voir toutes les rues de Paris, les Champs-Élysées, oui. Tous nos monuments pavoisés des drapeaux français et de l'hôte qui est reçu pour cette visite. Donc il faut avoir raison garder. Ensuite, le débordement d'amour entre les peuples et cet œcuménisme assez déroutant affiché par le maire de Carhaix, c'est d'une telle naïveté. L'enjeu... devant ce sapin de Noël qui est magnifique, il a au moins le mérite d'avoir un beau sapin de Noël devant sa mairie.
J'ai pas vu la crèche.
Non, vous voyez, on pourrait à ce moment-là lui faire le reproche de ne pas avoir un drapeau Rohingya, un drapeau des chrétiens d'Orient, un drapeau LGBT, enfin toutes les grandes causes des grands cœurs. Non, je pense que là, quand c'est dans de tels environnements, c'est tout à fait bon enfant. Je pense que, et votre sondage a peut-être été fait dans cette direction, c'est quand on voit tous ces agités, tous ces casseurs qui défilent dans les centres-villes, qui, eux, agitent des drapeaux étrangers, en l'occurrence les drapeaux de leur pays. C'était peut-être ça le fond de la question du sondage.
Vous vouliez commenter. Est-ce qu'on pourra commenter l'interview ou le sondage?
Les deux, mais en général, parce que je crois que c'est relativement cohérent. Il ne faudrait pas faire d'amalgame, si je puis me permettre, entre un drapeau porté sur un bâtiment public, qui est celui d'une mairie, et de voir après des drapeaux marocains, argentins, comme on a vu hier.
Là, sur la mairie, ça vous dérange?
Alors oui, parce qu'une mairie n'est pas un abribus. Une mairie, ce n'est pas l'arrière d'un bus RATP qui va se promener dans Paris pour faire la pub pour le Black Friday. Une mairie, ça représente la France, ça représente la République, ça représente notre nation. Alors après, s'ils souhaitent mettre en valeur, pour ça, mais j'ai jamais compris non plus pourquoi on mettait des drapeaux ukrainiens sur des mairies françaises. On a très bien d'autres bâtiments qui soient culturels, qui ont des vocations associatives.
Drapeau breton alors.
Mais alors, c'est ça que je voulais dire, merci, parce que le maire de Carhaix n'est pas non plus un néophyte en politique. Il est effectivement de centre-gauche, mais c'est quand même un autonomiste breton. Et donc tout ce qui peut piétiner la notion de nation et le bleu-blanc-rouge, il le fera. Et ça fait 20 ans qu'il le fait en Bretagne. C'est important de le préciser et de remettre dans le contexte.
D'accord. Et dernière réaction avec vous, Judith. Voilà. On va partir à Saint-Nazaire ensuite.
Eh ben, je suis à la fois d'accord avec Jonathan et Benjamin. Il faut pas s'énerver quand on voit agiter des drapeaux d'autres pays que la France. Chacun a le droit de le faire en France. Mais effectivement, le fronton d'une mairie n'est pas le bon endroit où arborer un drapeau étranger.
Il est un peu esselé quand même dans ce cas de figure. On part à Saint-Nazaire parce que vous savez, rares sont les villes qui ont décidé de mettre en place un écran géant pour cette demi-finale. Mais c'est le cas à Saint-Nazaire. Bonjour, Michaël Chaillou. Qu'est-ce qui a décidé, convaincu la municipalité, le maire, eh bien de se laisser aller à ce rassemblement pour l'occasion, alors qu'on le sait, il y avait eu beaucoup d'appels à boycotter quand même la Coupe du Monde. Finalement, le sport l'emporte ?
Oui, c'est ça, le sport le emporte. Halte à l'hypocrisie, a même dit David Samzin, le maire d'hiver gauche de Saint-Nazaire. Il y a 3 mois déjà, dès le mois de septembre, il s'était prononcé pour l'installation d'écrans géants dans sa ville de Saint-Nazaire. C'est vrai, à rebours des autres municipalités, notamment socialistes de la région. On peut penser à Nantes ou à Rennes, où ce soir il n'y aura pas d'écran géant. Le maire de Saint-Nazaire qui dit clairement les choses. Bien sûr, on ne peut pas soutenir ce qui se passe au Qatar quant au respect des droits de l'homme, mais on ne peut pas non plus priver la population d'un moment de communion, de liesse autour de l'équipe nationale de football. Le résultat, ce soir, à 18h, écoutez, les portes de cette grande salle vont s'ouvrir et puis il n'y aura pas un, mais deux écrans géants ici, des écrans qui font 11 mètres de large pour l'un, 6 pour l'autre, avec pas moins de 2000 places pour accueillir des Nazériens à partir de 18h ici, pour vivre cette demi-finale ensemble.
Merci beaucoup et merci à Jean-Michel Decazes qui vous accompagne. C'est notre binôme habituel, bien sûr, dans l'ouest de la France. On est ravis de vous retrouver à cette occasion. Benjamin Cauchy, il faut arrêter l'hypocrisie, en fait. Ça fait plaisir aux gens, donc allons-y.
Écoutez, on a un tel climat anxiogène. On a une guerre à 2 heures de nos frontières. On a une inflation qui est galopante. On a des gens qui ont du mal à remplir le caddie. Alors, je ne me parle pas de faire et de mettre en place une parenthèse enchantée, de fermer les yeux sur ce qui se passe. Mais quand on voit un pays qui est en train de craquer de partout, avoir un moment d'unité et d'union nationale derrière le drapeau, derrière une équipe, et je sais bien que ça en embête certains, mais moi je m'en fous, qu'ils sont black, blanc et beurre, parce que c'est comme ça qu'est la France, et on les assimile derrière un drapeau bleu, blanc, rouge. Si on peut porter tout le pays derrière un moment d'unité nationale, ça sera un moment de bonheur, et ça sera peut-être, espérons, ouvrir certaines consciences et se rendre compte que finalement, la France, c'est pas mal quand on se réunit derrière le drapeau. C'est quand même mieux que de cracher dessus ou de le brûler. Voilà.
Au fond, c'est ça. Tout simplement. Ça aurait été étonnant, comme le dirait François Rebsamen, mais le maire de Dijon, on y reviendra à Dijon tout à l'heure. La vraie sanction, c'était il y a 12 ans, au moment de l'annonce, qu'il fallait la faire.
Oui, c'est pour ça que la non-diffusion décidée par Anne Hidalgo, le fait qu'il n'y ait pas de fan zone, etc., est complètement à côté de la plaque.
Surtout sauf quand on va accueillir la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, tirer le rideau devant la compétition qui précède les deux grandes compétitions mondiales qui auront lieu à Paris.
Ça envoie un drôle de message.
De snobisme.
Ça envoie un drôle de message. Absolument.
Oui, et puis on voit que ce sont des boycotts aussi variables. Anne Hidalgo appelle à ne pas projeter un match qui est en provenance du Qatar. Elle ne nous demande pas de ne pas nous fournir en produits chinois ou manufacturés en Chine, par exemple.
L'appel d'offres de la mairie de Paris.
Par exemple. Si vous voulez, ces retours comme ça sur des discours tenus contribuent aussi aux yeux des gens, dans l'esprit des gens, à un discours politique vide de sens. Et ces gens qui s'affichent durant les campagnes et dans leurs premiers discours comme des gens de conviction, des gens courageux, etc., etc., qui vont renverser la table, que dès qu'ils le peuvent, ils vous annoncent avec la même conviction tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est pas bon pour la politique en général et pour ceux qui la font et pour ceux qui veulent encore y croire.
Eh bien, on va s'interrompre à nouveau. Et devinez de quoi on va parler dans la dernière demi-heure. Bien sûr, nous serons à Dijon avec les restaurateurs qui nous attendent. Alors lui, il a pris le contre-pied du monsieur que vous avez entendu il y a quelques minutes. Il a décidé de fermer et vient nous dire pourquoi. À tout de suite. 90 minutes info, la troisième partie débute juste après le flash d'Adrien Spiteri à nouveau.
19 départements maintenus en vigilance orange, vous le voyez sur cette carte. Météo France alerte sur les risques de neige et de verglas. Bison Futé appelle également les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Agnès Pannier-Runacher l'assure, le plan sobriété porte ses fruits. La ministre de la Transition énergétique s'est exprimée au micro de CNews aujourd'hui. Depuis le 1er août, la consommation de gaz a baissé de 17% dans le pays. L'objectif du gouvernement est de baisser de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050. Et puis nouveau drame dans la Manche, le naufrage d'une embarcation transportant des migrants a fait au moins 4 morts ce mercredi. Une opération de sauvetage a permis de secourir plus de 40 personnes. Depuis le début de l'année, près de 45 000 migrants ont effectué cette traversée de la Manche.
Naufrage avec deux F.
Ah oui, c'est vrai. On l'a vu aussi. Le santé, naufrage, c'est pas grave. Eux, ils sont bons, hein, les invités. Note ce qui se passe à l'antenne.
C'est un métier.
Nous sommes attentifs.
Le vote surtout. Alors, merci de nous rejoindre pour cette dernière partie. On va évidemment parler du match, des préparatifs, de ceux qui seront directement au contact du public. Dans un instant, nous serons avec un restaurateur dijonnais. Pourquoi on parle de Dijon? Parce que François Rebsamen, le maire PS de cette ville, eh bien, a décidé finalement de diffuser, le match et même de mobiliser le Zénith qui contient quand même 8000 personnes. Voilà ce qu'il nous disait au mois d'octobre, le maire de cette ville. Chaque maire est libre de décider s'il veut retransmettre ou pas. Moi, je trouve que cela est un peu démagogique. Il y a une posture de l'hypocrisie quand j'entends tous ces maires. Ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, il avait dit aussi à l'époque on ferait ça à partir des quarts de finale ou des demi-finales. Donc, il s'exécute. Cela se fera en intérieur, au Zénith ou au Parc des Expos. Il avait de la suite dans les idées. À l'époque, il avait aussi dit, quand même, et puis là, c'est ce qu'il vient de dire cette semaine, comme je l'avais annoncé, donc il confirme, le match sera retransmis sur grand écran au Zénith de Dijon. Il avait dit, François Rebsamen, au fond, si boycott il doit avoir, c'est au moment de la désignation du pays en question, pas 12 ans après, c'est un peu facile, alors qu'on sait tout ce qui s'est passé entre-temps, il fallait peut-être s'en soucier avant. Bonjour Alain de Seine, vous êtes également Dijonnais, merci d'être avec
nous. Bonjour à vous.
Vous êtes restaurateur à la tête du restaurant Le Pick and Roll, j'imagine que vous êtes amateur de basket. Donc ce soir, quel va être votre choix? Est-ce que vous accueillez du public? Est-ce que vous faites un menu spécial? Est-ce que vous mettez la télé? Ou est-ce que vous tirez le rideau?
Alors c'était prévu qu'on accueille le public avec 3 écrans ici jusqu'à ce matin. Et en fait, on a pris la décision au niveau du groupe, parce que le restaurant appartient à un groupe, de fermer le rideau, parce qu'on ne va pas mettre nos clients en péril. On a eu beaucoup d'annulations sur, je ne vais pas polémiquer, mais sur les deux qualifications du Maroc, on a eu beaucoup d'annulations, parce qu'ici, il y a eu des affrontements. Donc on s'est retrouvé avec le restaurant fermé, des annulations dans tous les sens, et des clients qui étaient un peu apeurés, donc on prend la protection de nos clients. Et malheureusement pour nous et pour moi, fan de sport, eh bien on est obligé de fermer le rideau. On a rentré la terrasse, on a tout préservé pour éviter des débordements.
Mais alors racontez-nous quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déferlé dans les rues, menaçant.
Alors pas forcément menaçant, mais. Ouais. Il y avait une liesse populaire, ça c'était sûr, mais par contre, il y a eu beaucoup d'interventions avec les CRS. Il y a eu beaucoup de voitures qui passaient sur la place et qui ont été bousculées. On montait sur les voitures, on montait sur les toits de voitures. Et donc, beaucoup de lacrymogènes, beaucoup de poubelles lancées sur la route, sur la place. Et donc, ça a apeuré nos clients. Beaucoup avaient réservé et nous ont appelés en disant « Écoutez, on ne viendra pas, on viendra une autre fois, mais là, vraiment, on ne va pas venir. » Donc, c'est impactant pour nous.
Qu'est-ce que vous pensez, dans ces conditions, de la décision de votre maire de retransmettre dans une salle qui, pour le coup, là, accueillera beaucoup de public, puisqu'on parle d'une capacité de 8000 personnes, tout de même au Zénith, et avec tout ce qui pourrait être occasionné à la sortie? Est-ce que vous dites chacun ses responsabilités? Vous dites que c'est un peu irresponsable quand même de sa part? Nous, on connaît pas Dijon, mais...
Je pense que s'il a pris cette disposition, c'est que la sécurité va être en place autour du Zénith, que concentrer les gens sur un même espace, pourquoi pas, ça fait une espèce de fan zone. Donc l'idée est bonne, mais nous, dans la mesure où la police, les CRS pourront pas être partout, on se dit on va pas prendre le risque malheureusement, parce que le restaurant est en plein décollage puisqu'il est créé depuis quelques mois. C'était une opportunité pour nous, c'était un booster pour pour le restaurant. Et comme il va y avoir des concentrations sur le Zénith, nous, on ne prend pas le risque, donc on a décidé de fermer.
Oui, c'est vrai que c'est quand même un manque à gagner pour vous. Vous n'avez pas encore décidé si jamais la France se hisse en finale ou pour la finale tout court, ce que vous feriez ?
Alors si, normalement, on devrait ouvrir dimanche. Mais bon, on attend de voir ce qui va se passer ce soir.
Merci en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cette émission. C'est intéressant ce qu'il nous dit. Et en même temps, déplorable, quoi. Enfin, c'est bien d'anticiper, mais voilà, pour le commerçant qu'il est, il n'y a pas d'argent qui rentre dans la caisse ce soir, quoi.
Oui, c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission. Nelly, ce que je retiens, c'est effectivement ces commerçants qui pourraient gagner de l'argent pour eux, pour leurs salariés, pour la ville dans laquelle ils se trouvent, vont de nouveau bien baisser le rideau et faire une journée blanche. Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs combien coûte ce type de soirée ratée, si je puis dire, et les lendemains, quand il faut réparer le mobilier urbain, les vitrines de magasins, etc. À ma connaissance, l'addition n'a jamais été faite. Ça coûte combien?
On a le plus grand mal à trouver des chiffres.
Ça coûte combien de refaire les Champs-Élysées trois fois par an? Ça coûte combien des centaines de restaurants et de boutiques qui ont fermé?
Une fois, oui, c'est pour les Champs-Élysées. Pour tous, était aux Invalides. Alors là, Anne Hidalgo, c'est un devoir de nous dire. Parce qu'il y a, la réflexion de la pelouse.
La manif pour tous, il y a un million de personnes dans la rue, il n'y a pas un papier gras qui traîne derrière. Hein, mais, et la pelouse des Invalides est dans un état déplorable sans manif pour tous. Non, mais sérieusement, c'est intéressant de voir le manque à gagner aussi bien pour des petits entrepreneurs que pour des villes, pour tout le marché du tourisme et au sens le plus large du terme. Parce que rappelons quand même que notre économie est basée pas mal sur ça aussi.
Alain de Seine, je crois qu'il est encore là. Petite question subsidiaire, puisqu'on en parle en plateau. Je ne vais pas vous demander combien ça vous rapporte d'ordinaire, mais le manque à gagner, il est important par rapport à une soirée normale parce que vous aviez une capacité supplémentaire. J'imagine que vous doubliez en général l'effectif ou la capacité de service.
On n'entend pas.
Sur Dijon, une des plus belles terrasses, on avait prévu des planchas, on avait prévu de mettre des petits braseros pour optimiser, puisque je vous l'ai dit, on a trois écrans, et comme on fait que des produits frais faits maison, évidemment, il y a un manque à gagner, parce que ces produits, il va falloir qu'on les recycle autrement, donc c'est un réel manque à gagner, surtout dans un restaurant qui démarre, puisqu'on est un nouveau restaurant sur Dijon, donc oui, c'est très impactant pour nous.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Allez, dernier tour de table, il nous reste deux minutes avant de conclure cette édition. Benjamin Cauchy, sur les mesures qui sont prises. Là, c'est un exemple, mais on imagine qu'ils sont des milliers en France.
Oui, c'est ça. Oui.
Ceux qui ont subi la crise, Covid,
exactement,
qui sont en train d'essayer de se refaire aussi financièrement.
Et oui, qui sont exsangues, parce qu'avec des factures d'électricité qui explosent en même temps. Et donc, on parle effectivement des commerçants qui décident de fermer. Moi, je pense aussi à tous les commerçants qui sont obligés de faire appel à des services de sécurité privés. Et devant chaque bar, moi, je me souviens d'avoir vécu la Coupe du Monde de 98, sans doute vous aussi, je ne sais pas si vous étiez né, mais quoi qu'il en soit, il y avait quasiment pas de vigile devant les établissements. Aujourd'hui, vous vous promenez dans les rues de Paris ou de n'importe quelle ville en France, vous allez avoir des agents de sécurité devant les bars. Donc il y a un coût. Le coût de l'ensauvagement de la société se répercute non seulement sur nos impôts, sur les dégâts qu'il y a le lendemain et le soir même. En termes d'image et de retombées touristiques, c'est une cata, mais aussi c'est au quotidien pour les commerçants de se protéger. Voilà.
Judith Ventrob, allez, le dernier mot qui vous revient avant de conclure et d'aller se préparer pour le match, enfin pour certains.
Moi je trouve ça effectivement très dommage, bien que ne m'intéressant pas au foot, que ce genre d'événement en France donne forcément lieu à des débordements. J'espère qu'ils seront le plus minimes possible, mais qu'en tout cas on ne puisse pas envisager de réjouissance populaire sans un dispositif de sécurité et un coût pour la société vraiment très lourd.
Allez, on fera le bilan demain, à défaut d'avoir la facture des dégâts.
on aura quand même une petite idée en termes d'interpellation, voir si la jauge grossit par rapport à la semaine dernière. Et c'est 170, je vous le rappelle, interpellations à travers le pays. Dans un instant, punchline, un peu plus tard. N'oubliez pas, après le match, après la rencontre, le débrief. Ce sera avec Julien Pasquet à 22h. Je vous remercie à tous les trois.
Et que les Bleus gagnent.
Et que les Bleus gagnent.
Et allez les Bleus.
Allez les Bleus.
Et que les Champs-Élysées soient bleu, blanc, rouge ce soir.
On est déjà un petit peu dans le bleu, blanc, rouge sur le plateau. Allez, à tout à l'heure. Bon match à tous et à demain.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.